Néanmoins, elle m'a demandé de vous parler du sacrement de réconciliation et du sacrement des malades, puisque ce qu'elle a imaginé, c'est un mouvement, une croissance, si vous voulez, à travers les sacrements que nous donne l'Église. Voilà. Alors, je ne vais pas du tout faire ce qu'elle aurait fait, parce que je ne suis pas théologien, mais je vais vous parler donc, du sacrement de réconciliation et du sacrement des malades, parce que ce sont les sacrements ultimes, si vous voulez. On commence d'une certaine façon, on va commencer aujourd'hui, par les sacrements de la faim, F-I-N, parce que sacrement des malades, qu'on a longtemps confondu avec le sacrement qu'on donne juste avant la mort, l'extrême onction. Sacrement des malades n'est pas l'extrême onction. L'extrême onction, c'est une petite cérémonie qui comprend le sacrement des malades, mais ce n'est pas le sacrement des malades. Donc voilà, ce sacrement est souvent placé à la fin. Puis tout au long de notre vie, il y a le sacrement de réconciliation, particulièrement à la fin de notre vie. Si on peut se confesser, c'est quand même beaucoup mieux pour aller au ciel. Beaucoup mieux. Pas obligatoire, mais beaucoup mieux. Souvent, vous savez, même les médecins dans les hôpitaux, j'ai vu ça très récemment, les médecins, quand il y a quelqu'un qui va mourir et que les médecins savent que la personne est chrétienne, il y a une question qui surgit souvent. A-t-il mis tout en ordre? A-t-elle mis ses affaires en ordre? Temporel, on l'imagine bien, mais aussi surnaturel. Voilà. Et donc c'est à ce moment-là que le prêtre dans les hôpitaux, ça c'est une découverte que j'ai fait récemment, et je l'ai fait dans plusieurs hôpitaux, donc c'est vraiment vrai. Il y a une mémoire sacerdotale dans les hôpitaux qui fait qu'un prêtre peut rentrer dans un hôpital à toute heure du jour et de la nuit. Vous rentrez, on vous interpelle, vous montrez votre col romain, on s'excuse de vous avoir interpellé et dérangé dans l'élan que vous aviez entrepris pour aller voir le malade. Puis quand on vous retrouve dans la chambre d'un malade, eh bien, les infirmières, quand elles voient que c'est un prêtre, étonnamment, mais c'est très très beau quand même, il faut se nourrir de ces petits signes que je trouve moi très très beaux. Étonnamment, l'infirmière s'excuse et demande si j'en ai pour longtemps, ou alors elle repassera, ou alors si c'est très urgent pour elle, elle me fait comprendre que je pourrais de toutes les façons revenir très très vite. Vous voyez, si vous êtes infirmière, toutes mes félicitations d'avoir maintenu ça dans vos services, c'est vraiment une chose très très belle. Alors, le sacrement de la réconciliation et le sacrement des malades, d'abord, première chose, ce sont des sacrements. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sacrement ? Qui peut réciter son caté par cœur? Le sacrement, c'est... Et voilà, un silence magnifique. Ouais, quand même. Le sacrement, c'est un signe visible d'une action invisible. C'est comme ça qu'il est défini. De Dieu. Donc chaque sacrement, c'est une action de Dieu. D'accord ? À chaque sacrement, Dieu agit. Comment est-ce qu'il agit ? Il agit sur la personne humaine telle qu'elle est. Le Seigneur n'attend pas qu'on soit parfait au moment où on reçoit un sacrement. Il sait très bien qu'on est parfaitement imparfait. Non, mais c'est vrai. Qui peut arriver au sacrement parfait ? Enfin, dans un état de grâce, c'est mieux quand on communie, évidemment. Mais qui peut être assuré à 100% d'être en état de grâce? Pas avoir fait de péché mortel et pas avoir fait de péché véniel. Très bien. Condition pour avoir fait un péché mortel, souvenez, toujours le catéchisme. Péché mortel, c'est un péché qui nous sépare de la grâce divine. Ça, c'est quelque chose de... Péché mortel, c'est quelque chose de très très grave. Qu'est-ce qu'il faut pour quelles sont les conditions pour un péché mortel? Il faut une matière grave. Alors vous prenez un des 10 commandements, le mensonge par exemple. Voilà une matière grave. la gloutonnerie. Je fais exprès de prendre des trucs qui peuvent nous paraître la gloutonnerie ou la gourmandise. Au bout du 15e chocolat piqué dans la boîte, il va falloir aller apporter le reste de la boîte au confesseur. Donc une matière grave. Oui ? Quelqu'un a... Comment ? Est-ce que l'impureté est une matière grave ? Eh ben non. C'est un péché, mais ce n'est pas une matière grave. L'adultère est une matière grave. Prenez les 10 commandements. Ça va ? Comment ? Ah, le meurtre, ah oui. Alors, ça, si vous tuez votre voisine, si vous tuez une des sœurs, c'est très grave. Mais attention, il faut que ça soit fait librement et avec l'intention de se séparer de Dieu. Alors, librement, c'est possible. C'est assez facile, d'ailleurs, librement. Mentir... librement, c'est assez facile, mais avec le désir de se séparer de Dieu. Vous voyez que là, on peut se dire à juste titre, moi je vous avoue que j'ai appris ça pendant mon séminaire de la bouche même d'un évêque, j'imaginais que je faisais des péchés mortels toutes les 4 secondes. Eh ben non, un péché mortel, c'est pas facile à faire. Parce que, je vous dis, il faut avoir la ferme intention de se séparer de Dieu. La ferme intention de se séparer de Dieu. Et je pense que beaucoup d'entre nous, pour la plupart d'entre nous en tous les cas, on n'a pas la ferme intention de se séparer de Dieu. Alors il y a quelque chose qui est tout aussi dommageable pour l'homme que le péché mortel. Et ça, c'est Thérèse d'Avila qui le dit. C'est la multitude des péchés véniels. Alors là, une image, Thérèse d'Avila, que je trouve très très belle. Thérèse d'Avila, elle dit, c'est comme de tout petits péchés, comme la cendre sur un feu. Vous voyez, la cendre, c'est rien du tout. Vous prenez une cendre, ça tient à peine dans votre main, c'est même à peine visible dans votre main. C'est vrai que c'est un péché qui est, a priori, c'est pas très très grave, vous voyez. Voilà. Mais Thérèse d'Avila dit, si ce péché-là est reproduit souvent, eh bien ça couvre le feu. Et ça éteint le feu. Tous ceux qui vivent à la campagne le savent bien. Si vous voulez garder le feu, ben vous mettez les cendres par-dessus le feu et vous le gardez jusqu'au lendemain. En attendant, il n'y a pas de feu. Les flammes ne jaillissent plus du feu. Vous voyez ? Donc, un péché mortel, c'est vrai que ça nous sépare de Dieu. Mais une multitude de péchés véniels, eh bien, ça empêche la puissance de la grâce de se développer en nous. On est pécheur et même le Seigneur, dans différents passages de l'Écriture, notamment la question des scandales, et c'est très étonnant ça, il y a un passage de l'Écriture qui ne me revient pas en mémoire, mais où le Seigneur dit que le scandale est inévitable. Pour ce qui est du scandale, il est inévitable. Alors, vous connaissez la fameuse histoire, pour toute personne qui aura fait le scandale, mieux vaut que lui attacher une meule autour du cou, parce qu'en fait, le scandale entraîne les petits, les plus petits. Le scandale, c'est quoi ? C'est quelque chose qu'on fait et qui entraîne des petits. Voilà. Ben, le Seigneur dit, et c'est très étonnant, mais il dit, que le scandale est inévitable. Dans notre société, le scandale est inévitable. Alors, c'est facile d'ouvrir les journaux et c'est facile de... Voilà. Et le Seigneur sait à quel point nous sommes fragiles. Il sait à quel point le péché peut empêcher la grâce de se déployer à l'intérieur de nous. Par notre baptême, il est présent en nous. Nous avons tout ce qu'il faut pour être heureux, mais le péché empêche l'Esprit Saint en particulier de se déployer et de nous rendre heureux. Alors, qu'est-ce que le Seigneur prévoit ? Dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelle des rites de purification. Alors, les Juifs allaient au temple, il y avait des bassins, De même qu'à l'entrée des maisons, parce que les maisons pour un juif, la maison pour un juif, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à notre église. C'est-à-dire que pour un juif, la prière commune ou la prière en communauté a deux parties. Une première partie dans la synagogue et la deuxième partie à la maison. Ce qui fait que à la fois la synagogue et à la fois la maison, il y a des cuves d'ablution. On va vers ces cuves d'ablution, on entre en entrant dans la maison et on s'asperge l'eau. L'idée, c'est parce que les terrains sont il n'y a pas de béton, quoi. C'est d'arriver chez la personne plus propre. Mais l'idée aussi, c'est de demander à Dieu de nous convertir. L'idée, c'est de s'incliner devant Dieu en disant à Dieu, j'entre dans cette maison, j'entre dans ce temple, mais comme un pécheur. Voilà. Et je le désire de me convertir, mais je compte sur toi. C'est exactement l'ancêtre de nos bénitiers. On a des bénitiers à l'entrée de l'église. Et il n'y a pas si longtemps, il y avait aussi des bénitiers à l'entrée des maisons. À la maison de campagne, il y a toujours un bénitier à l'entrée de la maison. Et on avait pris l'habitude de bénir, et même de se bénir quand on suait à la queue leu-leu pour rentrer dans la maison. Il y a toujours des bénitiers dans, moi je crois, dans les cellules des sœurs. Non, mes sœurs ? Il n'y a plus de bénitiers. Vous avez zigouillé les bénitiers. Dans la tradition bénédictine, quand vous allez dîner chez les sœurs, vous allez déjeuner chez les sœurs, et bien, elles vous lavent les mains juste avant de passer à table. Enfin, dans la tradition bénédictine. Ça va ? Alors, le sacrement de réconciliation, vous voyez, le bon Dieu a mis plein de choses pour nous aider à nous convertir, mais la chose la plus efficace, ça reste le sacrement. Pourquoi ? Parce que le sacrement, comme le baptême, comme la communion, agit de l'intérieur. Quand vous allez vous confesser, eh bien, le Seigneur agit à l'intérieur de nous. D'abord, quelles sont les conditions pour une bonne confession ? Qu'est-ce que le Seigneur fait dans notre cœur ? Alors, les conditions pour une bonne confession, ce n'est pas la liste. Oubliez vos listes à la maison. Le Seigneur sait très bien votre péché. C'est pas qu'il ne faut pas que vous soyez exhaustif, mais il y a dans la liste, quelque part, je pense, encore une recherche de la perfection par soi-même. Moi, ce qui m'a éclairé sur ce sujet-là, parce que j'étais persuadé qu'il fallait être absolument exact, il ne faut pas l'être, mais la liste stricte n'est pas nécessaire. C'est le curé d'Ars. À votre avis, combien de temps durait la confession d'une personne du temps du curé d'Ars ? Quand le curé d'Ars confessait, ça durait combien de temps ? À votre avis ? Bon, il y avait 7 jours d'attente à son confessionnal. Ça va ? Bon, alors, quand les personnes passaient, ça durait combien de temps, à votre avis ? Une heure ? J'entends pas.
2 minutes ?
Une heure ? Ah non. Ah, les hommes comme les femmes, hein ? Parce que parfois c'est un peu plus long avec les femmes, mais... Ben, c'est vrai, vous racontez des détails. 1 minute 15, c'est la moyenne. Ça veut dire que parfois ils prenaient un tout petit peu plus de temps, mais en général... Parce que la seule chose qui intéressait le curé d'Ars, c'était la contrition. Est-ce que vraiment on regrette notre propre péché ? Est-ce qu'on est vraiment contrit, profondément contrit ? C'est ça la vraie question. Et c'est pour ça qu'il faut prier la Sainte Vierge, il faut prier l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que votre préparation au sacrement de réconciliation doit d'abord être une prière à l'Esprit Saint pour demander à l'Esprit Saint un cœur contrit. Puisque l'Esprit Saint est l'architecte de notre âme, il faut demander à l'Esprit Saint un cœur contrit, un cœur profondément désolé. Vous voyez que là, l'atmosphère n'est pas la même. Hein. On est loin de la liste. et de la recherche de perfection. Je vous avoue très franchement, je dis ça régulièrement parce que je pense que ça peut parfois vous aider, mais il y en a certains d'entre vous qui se confessent comme s'ils étaient, ils regrettaient de ne pas être la Sainte Vierge. Non, mais c'est vrai. Et puis, il y en a d'autres qui, bien loin de la contrition, s'imaginent qu'il y a des âges pour pécher, il y a des âges pour ne plus pécher. Passé 85 ans, oh, vous savez, mon père, à mon âge. Non, mais une fois par semaine, hein. Ça vous fait rigoler. Une fois par semaine. Alors, souvent, je dis à la dame ou au monsieur, souvent des dames d'ailleurs, est-ce que. Non, parce que les messieurs, ils ont une petite conscience. Il y a quelque chose qui leur rappelle qu'ils pêchent assez souvent. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose d'assez masculin. Alors que vous, mesdames, comme vous êtes plus près du bon Dieu que nous, quelque part, ça je l'expliquerai un jour, peut-être que la tentation est plus grande. Alors je demande à la dame ou au monsieur, mais est-ce que vous voulez que je vous aide? Oui? Alors du côté de la parole, est-ce que toutes vos paroles sont ajustées à la vérité? Ah, et on commence à voir la personne qui commence à plonger un petit peu. Est-ce que quand vous mangez de façon toujours ajustée, c'est-à-dire suffisamment, parce qu'il y en a qui ne bouffent rien, donc il faut manger plus, ou alors pas trop? Est-ce que la consommation d'alcool est ajustée à ce qui est bon pour vous? Là, pareil, il peut être bon de boire un verre de vin, comme il peut ne pas être bon d'en boire quatre. Vous voyez, est-ce que c'est ajusté? Et ainsi de suite. Mais tout ça ne veut rien dire, tant que vous n'avez pas un cœur contrit, l'effet de la confession est faible. Souvent les gens me demandent, mais pourquoi est-ce que je confesse toujours le même péché? Ben parce que vous avez peu de contrition, parce que vous avez peu le sens de la responsabilité. Quand je dis vous, je me mets dans le sac. Hein. Vous avez peu la conscience de votre responsabilité. Vous vous sentez peu responsable finalement. Alors, encore un petit éclairage sur ce sujet-là, parce qu'il me paraît vraiment important. Savez-vous comment on confesse dans l'Église orthodoxe? Eh bien, il n'y a pas de liste de péchés. On dit son péché, mais de façon très très générale. Nous, dans l'Église chrétienne, enfin dans l'Église catholique, on dit notre péché simplement. Voilà, j'ai menti, j'ai volé, j'ai été paresseux, j'ai pas besoin là encore d'explications ni de détails. Mon père, faut que je vous explique le contexte. Non, c'est pas la peine, c'est pas nécessaire. Parce que j'en ai rien à faire, en fait, du contexte. Et le bon Dieu non plus. Bah oui, mais j'en ai rien à faire du contexte. Aucun prêtre sur la terre n'est intéressé par le contexte de votre péché. Je vous l'annonce tout de suite. Donc dites-le tout simplement. Mais alors, dans l'Église orthodoxe, eh bien, on dit très peu son péché. On dit un péché de façon très très générale et ça suffit, basta. On peut même omettre de dire certains péchés. C'est étonnant ça, hein ? Mais ça montre quand même quelque chose. Je pense que c'est trop, il faut dire son péché, tout le péché qu'on a dans le cœur. Mais il y a quelque chose qui est assez juste là-dedans. Et ce que font les prêtres orthodoxes, c'est qu'au moment où la personne avoue qu'elle est pécheur, eh bien ils mettent leur étole sur la tête du pécheur et n'entendent pas le péché. Bah oui, parce que quand vous avez mis l'étole sur la tête du pécheur, le pécheur en général il est à genoux, vous n'entendez pas tout, c'est pas très net. Eh bien, c'est fait exprès. C'est fait exprès pour qu'il y ait une distance encore plus grande entre le pécheur et le prêtre, mais une distance peut-être raccourcie entre le pécheur et Dieu. Voilà. Mais ça, c'est l'Église orthodoxe, simplement pour vous montrer que le plus important, c'est vraiment la contrition. C'est ça qui change tout. Ensuite, après avoir dit votre péché, souvent, les prêtres commentent. Alors, en fonction des cultures, le commentaire peut être plus ou moins long. Souvent, dans la culture africaine, le commentaire est assez long. Chez nous, il est plutôt court. Et si vous venez vous confesser à mes heures de confession, il est très, très court. Parce que, mis à part de rares exceptions, je pense que c'est pas le moment de faire un accompagnement spirituel. Vous dites votre péché, le prêtre dit en deux mots ce qu'il a à vous dire, et ensuite, vous dites l'acte de contrition qui manifeste votre contrition, et le prêtre vous donne l'absolution. Il faudra réparer, parce que quand on a péché, on a abîmé, non seulement vous vous êtes abîmé, mais vous avez abîmé le corps qu'est l'Église, et donc il faudra faire une réparation. Cette réparation, le prêtre vous la propose pendant la pénitence, quand vous allez faire pénitence, quand c'est le moment où il vous dit « faites un ave, 10 ave, allez vous agenouiller au pied de la Vierge, etc. » Vous faites ce qu'on appelle réparation. Mais il y a un autre moment où vous ferez réparation, où nous ferons réparation, c'est au purgatoire. Bah oui, au purgatoire, c'est le moment où on répare les dégâts qu'on a faits sur la terre. Alors, est-ce qu'il y a un moyen d'aller au ciel sans passer par le purgatoire? Oui. Vous venez à Notre-Dame des Victoires, c'est vrai, pendant les fêtes mariales ou les fêtes du Christ, vous vous confessez, vous communiez au corps de Christ, vous dites votre credo, vous priez aux intentions du pape et vous recevez une indulgence plénière. Ça coûte 0 centime. Je dis ça parce que parfois c'était monnayé à un certain moment. Voilà. Une indulgence plénière, c'est la réparation de vos fautes qui sont effacées. Voilà. Si vous venez le 8 décembre à la messe, que vous vous confessez, que vous dites le credo, que vous priez aux intentions du Saint-Père, en sortant de l'église, vous pouvez mourir tranquille, direct, hop, au ciel. Ça va, la confession? Quand on ressort du confessionnal, le prêtre est très heureux. Il n'est pas du tout heureux d'avoir entendu vos péchés. D'abord, on ne s'en souvient jamais de vos péchés. Si vous imaginez qu'on s'en souvient, alors là, vous vous rendez compte, 30 ans de péché à 6 heures par semaine, ce n'est pas possible. On ne s'en souvient pas, heureusement. Donc, quand on vous recroise, la seule chose dont on est heureux, c'est qu'on sait que vous avez reçu la grâce du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe dans le sacrement de réconciliation au moment où le prêtre vous donne le sacrement? Eh bien, votre cœur est renouvelé. Alors j'ai une petite image personnelle pour expliquer ça, qui est simple mais je trouve très très belle. C'est que vous voyez le gruyère avec des trous, enfin, notre gruyère, pas le vrai gruyère, le gruyère avec des trous, ça va, vous y êtes? Vous n'êtes pas réveillé du tout, mais bon, je vais pouvoir dire n'importe quoi tout à l'heure pendant le sermon. Les trous représentent notre péché, ça va? Au moment du sacrement de réconciliation, quand le prêtre vous donne l'absolution, tous les trous sont remplacés par de la matière divine. C'est pas mal, ça. Ce qui fait qu'en fait, plus vous vous confessez, plus votre cœur ressemble au cœur de Jésus. Plus votre cœur devient divin. D'où le sacrement de réconciliation. C'est pour ça que l'Église recommande, alors, exceptionnellement, de se confesser une fois par an, c'est bien de se confesser une fois par mois. Pourquoi? Tout simplement pour renouveler au Seigneur notre amour et pour que ces flots de miséricorde puissent se déverser dans notre cœur. Vous savez qu'on se confesse, on reçoit une absolution aussi à la messe. Au tout début de la messe, vous ferez très attention. Vous avez de la chance, vous êtes arrivé à l'heure. C'est pas comme très peu d'ailleurs Notre-Dame Victoire, on n'arrive jamais en retard, tout le monde arrive à l'heure. Mais au moment du tout début de la messe, on demande pardon au Seigneur et on reçoit une absolution. Vous ferez très attention aux paroles du prêtre. Ce n'est pas une absolution sacramentelle, mais c'est déjà le Seigneur qui nous bénit, c'est déjà le Seigneur qui reconnaît qui voit bien qu'on est désolé et qu'on arrive comme des pauvres à la messe et qui du coup va pouvoir remplir notre cœur de sa gloire. Et c'est pour ça qu'après, tout de suite après, on chante le Gloria. Voilà très rapidement le sacrement de réconciliation. Le sacrement des malades, Quelles sont les conditions pour recevoir ce sacrement? Et c'est simple, il faut être malade. Alors, les textes de l'Église disent une maladie sérieuse. Vous voyez, c'est pas si précis que ça. Alors, ce qui fait que les anciens, depuis le Concile de Trente en tous les cas, ont souvent interprété qu'il fallait être à l'article de la mort. Mais non. En fait, le sacrement des malades, c'est un sacrement qu'on reçoit pour deux choses, soit guérir de la maladie, parce que c'est un sacrement de guérison, soit pour traverser la maladie, parce que c'est un sacrement qui rend plus fort. Voilà. Donc évidemment, si vous avez une grippe, ce n'est pas la peine de recevoir ce sacrement. Le médecin vient de vous annoncer un cancer, vous paniquez, vous êtes dans l'angoisse, vous rappliquez à la basilique et évidemment, on vous donne ce sacrement. Évidemment. Alors, on le donne à la basilique 3 fois par an, plus toutes les fois qui sont nécessaires. Vous allez voir les sœurs. Voilà. C'est un sacrement qui doit vous aider à traverser une maladie. Et c'est à vous de voir si cette maladie est... Souvent, par exemple, je vais vous donner un exemple qui fait que je dis non très souvent aux gens qui viennent me voir et me disent « Mon père, voilà, j'ai un cancer, donc jusque-là, oui, je vais vous donner le sacrement. » Mais je suis en rémission. Et ça va ? Oui, ça va. Et vous êtes heureuse d'être en rémission ou heureux d'être en rémission ? Ah oui, oui, je suis très très heureuse. Et le médecin est très positif. Bon, écoutez, on se reverra un petit peu plus tard. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'il y a d'autres sacrements pour traverser le moment de la rémission. D'abord, il y a la louange, mais il y a aussi l'Eucharistie. Il y a aussi, la louange n'est pas un sacrement, mais il y a l'Eucharistie, l'Eucharistie, le sacrement de réconciliation. Qu'est-ce qu'on fera? On est en train de guérir. Est-ce que le Seigneur n'a pas déjà fait tout le boulot, d'une certaine façon, soit en passant par les médecins, soit en direct? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce sacrement? Il faut être dans la réalité, en fait. Il faut être dans le réel de ce qu'on vit, de ce qu'on est. Donc, si vous êtes malade, si la maladie est sérieuse, si vous avez du mal à la traverser, eh bien, n'hésitez pas, vous allez voir votre curé, vous allez voir votre prêtre de votre paroisse qui, évidemment, vous donnera le sacrement des malades. Il faut le dire aux malades, ça. Il faut le dire à ceux qui vont à l'hôpital, ceux qui y restent. De même qu'il faut leur dire de ne pas hésiter à contacter l'aumônerie, à contacter des prêtres qui sont attachés aux hôpitaux. C'est très très important parce que moi j'ai vu des biens fous se faire. Je vous raconte une histoire avant de commencer la messe. L'histoire concerne une personne qui m'est très chère, ma maman, qui avait une... Elle était au Mans et elle avait, je ne me souviens plus la maladie, le nom de la maladie, c'est une maladie des poumons où... En gros, c'est pas un cancer, mais c'est une... Ah, comment ? Oh. Hein ? Pleurésie. Et le médecin me dit, soit elle redémarre, alors ils ont des mots charmants pour ça, hein. Soit elle redémarre pas. La voiture. Pauvre maman. Alors je rentre dans la chambre et je lui dis il était très tard, il n'y avait pas d'autres prêtres, etc. Je lui dis, maman, va falloir se confesser à son fils. J'ai rien à te dire. Oui, mais va falloir quand même y aller, alors avec des périphrases si vous voulez, mais je me suis confessé récemment. D'accord, vous voulez pas vous confesser? Non, très bien, why not, c'est pas mon problème, c'est le sien. Et puis on commence le sacrement, donc mes frères étaient là, et on commence le sacrement. Il était 23h15. Alors, je noie un peu les choses parce que... Voilà. Il était 23h15 et je fais les prières, l'onction d'huile, et je laisse ma petite maman tranquille après lui avoir donné le sacrement des malades, elle me regarde et elle me dit « Ah, je me sens mieux, je me sens mieux !» Je dis « Ouais, enfin, on va voir quand même. » Puis moi, j'avais cette échéance du médecin dans la tête. Il faut que la voiture démarre, il faut que ça redémarre. Ou elle redémarre demain matin, ou elle ne redémarre pas demain matin. Ok, on va se coucher. Le lendemain matin, autant vous dire qu'à 8h, j'étais sur le pied de guerre avec mes frères. Et le médecin m'attire dans son bureau. Il me dit « Mon père, j'ai quelque chose d'assez étonnant à vous montrer. » Alors, il me dit « D'abord, rassurez-vous, votre maman va beaucoup mieux. » Alors là, je me fous de sa tête et je lui dis « Elle a redémarré !» Il me dit « Oui, ça va. Mieux. » Je dis « Ah bon ?» Il me dit « Oui, mais ce que je voudrais vous montrer va vous intéresser. » Et il me montre l'encéphalogramme. D'accord ? Et clairement, il y a, avant 23 heures, la courbe descendait. On voit le truc qui descend comme ça. Cling, cling, cling. 21 heures, 22 heures, 22 heures 30, machin. Hein. À 23 heures 15, boum, le truc repart dans l'autre sens. Jusqu'à la stabilisation. Il me dit, qu'est-ce que vous avez fait à 23h15 à votre mère? J'ai donné le sacrement de malade. Je ne suis pas un thaumaturge. J'ai juste fait mon boulot. Mais le bon Dieu a fait aussi le sien. Et ça ne m'est pas arrivé qu'une fois. Ça arrive à tous les prêtres très régulièrement. Le bon Dieu est bon, vous savez. Le bon Dieu nous... Quand on le prie avec ferveur, il nous exauce. Je ne dis pas qu'on était très fervent, mais disons qu'il avait décidé que ce jour-là, ce n'était pas la dernière journée de ma chère maman. Donc n'hésitez pas, quand vous êtes malade, à aller voir un prêtre, demandez-lui, il discernera. Vous venez voir une sœur, elle discernera. Si vous pouvez recevoir le sacrement des malades, et sachez qu'en cas de doute, moi j'ai plutôt tendance à le donner. Il y en a certains d'entre vous qui savent très bien faire d'ailleurs, qui l'ont déjà reçu plusieurs fois. Parce que les trésors du Seigneur sont immenses et innombrables et que le Seigneur veut qu'on en profite. Amen.